Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Duo et Boris Spineau. Prise de son assurée ce soir par Régis Nicolas. Réalisation Daniel Fino. Ce soir, Hugo Cassavetti et Christophe Comte se font face à notre affiche Ascension de Babix, Crack Up de Fleet Foxes et Fake Sugar de Beth Ditto. Vers 21h20, Xavier Martinet nous entraînera dans le petit salon pour parler avec lui de la Britpop. Et bien sûr, encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, le livre Je dansais de Carole Zandberg, publié chez Grasset, à l'occasion des rencontres littéraires Clameur à Dijon. Et nous ouvrons avec Babix cette émission, un musicien qui s'est fait connaître il y a une quinzaine d'années déjà, même si son premier album date de 2006. Depuis nombreuses collaborations avec Camélia Jordana, Elle ou Tomate Pourquerie, en tout cas qui montrent que le jeune homme a de la ressource. Il a créé en 2014 la maison de disques Bison Bison, dans laquelle sort son quatrième album intitulé Ascension. Très logiquement, comme extrait, on a choisi Alpiniste.
J'irai là où dorment les cimes, là où dorment les cimes, pour qu'on s'aime. J'irai là où tout s'illumine, là où rien ne s'abîme, pour qu'on s'aime. Sur la montagne nue, je planterai un drapeau aux conquérants de l'inutile. Aux conquérants de l'inutile. Je combattrai les titans, j'embrasserai le Yeti, si t'y es, si t'y es. À main nue, je combattrai la nuit, si t'y es, si t'y es. Je ferai briller ma vie, je ferai briller ma vie, pour qu'on s'aime. Bien après les cimes, bien après les cimes, bien après les cimes, je t'aime.
Voilà pour cet extrait de l'album Ascension de Babix. Qui vient de sortir. Hugo Cassavetti, pour commencer.
On est là. On a été réveillé par ce. Non, mais Babix, c'est un cas. Depuis le temps, depuis 15 ans, et quelqu'un qui trace un peu dans l'ombre, un peu à l'écart, un vrai parcours. Alors, c'est curieux, j'ai jamais compris si Babix, je pense qu'il y a un mélange des deux, il choisit volontairement, puisqu'il a créé son label pour être dans les marges, tout en ayant quand même, je pense, et savoir que légèrement aigri, qu'il n'ait pas été reconnu. peut-être à sa juste valeur. En même temps, quand on écoute le morceau qu'on vient d'entendre, qui est assez représentatif de ce disque très particulier mais intéressant, qui s'appelle Ascension, explique pourquoi. Peut-être qu'il, je pense que c'est quelqu'un qui regrette une époque où un Léo Ferré pouvait être presque populaire, quoi. Parce que c'est vraiment un peu ses racines à la base, c'est vraiment cette chanson française, lourde, mais dans le bon sens du terme, quoi, profonde, mais à texte, mais qui est exigeante, quoi. Et parce que, on va dire surtout, voilà, ou à l'opposé de légère, quoi. C'est-à-dire qu'elle doit exprimer, et ce disque est exactement ça. C'est un disque, je pense qu'il était assez désemparé, désespéré, ne voit plus de sens à faire un disque juste de pop ou de variété comme il en sort tous les jours. Peut-être même certains qui y participent plutôt habilement en tant que producteur, mais... Et voilà, comme tant de disques, et ça va être le cas, je pense, pour les quelques années à venir, ils ont tous leur lien avec le 13 novembre, avec tout ce qui se passe et comment on réagit à cet état, quoi, de désolation, de consternation et de, en tout cas, de sentir très désemparé. Et ce disque, je crois, est né de ça et apparemment, il s'est ressourcé tout à coup en allant chercher, effectivement, même pas les grands auteurs à texte, mais plutôt du jazz, du free jazz. C'est-à-dire une musique on ne peut plus éloigner du format pop, variété et de coucher de. Et c'est drôle parce qu'il y a une réémergence un peu de ce style de mi-chemin entre le jazz et la chanson. Je pense juste à cette belge qui s'appelle Mélanie Di Biasio, qui a fait un très beau disque l'année dernière, qui va revenir. Et il s'inscrit un tout petit peu dans cette lignée, alors que c'est un disque, comment dire, ouais, pas forcément lourd, quoi, mais pesant, on va dire, ouais, mais qu'il faut réécouter, rentrer dans cette logique de quelqu'un qui cherche à, une fois de plus, à trouver un peu du sens à ce qu'il fait, à la musique, à, en tout cas, une musique populaire. Et heureusement, il s'est gardé d'une formule que je déteste. Les gens disent qu'un disque doit être utile, mais en tout cas, ils disent qu'un disque doit avoir, doit être spirituel, je crois, quelque chose comme ça. C'est-à-dire être porté par une âme.
Qui a dit ça?
Lui, Babix.
Ah, lui? Non, mais, enfin, bon.
Je dis ça parce qu'on entend tellement souvent qu'un disque doit être utile, et moi, je crois pas, et on peut dire la même chose des films, l'art ne doit pas être utile. Par contre, que ça exprime quelque chose qui nous dépasse ou en tout cas touche par ce voilà de que ce soit en exprimant des choses qu'on a du mal à saisir et simplement par l'art et par le chant. Donc voilà, il y a des chansons comme ça très dépouillées avec ce oui, une ambiance très jazz, mais on n'est pas dans le jazz non plus, on est dans
les échappés, les embardés,
on est dans une c'est vrai, c'est quelque chose qui n'existe plus, qui aurait existé dans les années 50, mais avec des propos assez actuels puisque c'est relié forcément à l'errement, la nationalité, les migrants, toutes ces choses-là, l'appartenance, on va dire.
C'est vrai que
voilà. Tout ça est un peu flou, mais ouais, parce que ce disque remue beaucoup de choses et se cerne pas facilement, non?
Alors je sais pas si c'est dans le livret, mais c'est vrai qu'on a eu un petit texte de présentation, on va dire. Je sais pas si c'est le communiqué de presse ou si c'est dans le disque. Peut-être que vous pourriez regarder.
Je l'ouvre.
Je l'ai écouté ailleurs sur des liens. Bon.
Alors, vous avez une mission, Luca Savetti, enlever le blister. Mais c'est vrai que le texte est pesant. C'est-à-dire, après le 13 novembre, il a fallu tout arrêter, puis tout recommencer, vite, chercher, retrouver la pulsation de vie, écrire, gravir, chanter pour résister au froid, pour résister au fond. Je vous passe. Et je trouve que c'est une très, très, très mauvaise introduction à ce disque. Alors, qui, le fait est, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Doit s'appréhender avec un certain nombre d'écoutes. Moi, il n'est pas du tout venu évidemment vers moi, ou j'ai pas été évidemment vers lui, mais l'ayant écouté quand même à nombreuses reprises avant cette émission, il y a des choses qui me sont parvenues, et il y a même certaines plages que je trouve très belles. Donc voilà, je donne aussi ces indications. C'est pas l'évidence, c'est pas la Britpop dont on parlera tout à l'heure dans le petit salon. Hein. Christophe Comte sur Babix.
Je suis pas d'accord avec vous sur l'inutilité de ce texte, parce que je pense qu'il faut à un moment avoir une clé d'entrée dans ce disque. Et effectivement, alors je reprendrai le mot de Hugo, pesant mais pas lourd. Parce que effectivement, si on l'écoute comme ça, ça peut paraître un peu abstrait. Il y a un morceau qui s'appelle L'homme de Tripoli. Alors quand on lit l'explication, ça parle de Sarkozy qui est dans un hélicoptère et qui regarde les dégâts, qui observe les dégâts. C'est une chanson sur quelqu'un de cynique, qui impuissant, qui regarde les dégâts qu'il a fait en l'occurrence en Libye. Alors il y a cette femme syrienne Omaya qui fait l'objet d'une trilogie. Bon, bah, si on sait pas qui est, elle bon, et tout ça se rassemble après donc ce traumatisme du 13 novembre qu'on a tous vécu et que lui en tant qu'artiste a vécu peut-être différemment. Il a eu envie d'en faire quelque chose, mais qui soit pas effectivement ce qu'aurait pu faire un Saez ou je sais pas quoi qu'il a dû faire d'ailleurs avec des chansons contre j'en sais rien les djihadistes ou les
contre machins, les cons surtout
contre les cons. Et là on est sur une espèce de puzzle qui rassemblait sur plusieurs angles, plusieurs points de vue, assez, je trouve, en retrait par rapport au sujet, voilà, qui le préoccupe, mais avec quand même des liens très forts. Et puis une forme quand même qui est assez, assez radicale, parce qu'il a enregistré cet album en 2 heures, je crois.
Avec, en fait, c'était les démos, hein, pour au départ.
Oui, mais bon, elles sont pas beaucoup, orchestrées.
Et après, il a été en studio, il a voulu faire un vrai disque et on lui a dit, et il s'en est rendu compte que les démos étaient beaucoup plus fortes. Après, il a quand même fait quelques petits arrangements dessus.
Quelques arrangements, mais ça reste quand même un geste.
Ah oui,
comme
oui,
ça.
Absolument. On le sent, ça.
Il y a dans le disque en bonus une version d'Omaya avec Archie Shepp. Enfin, en tout cas, je pense qu'elle est dans l'album. Je pense que son rapport à ce jazz un peu libre, transversal des années 60, début 70, qui est pas le jazz que les gens apprécient beaucoup, qui est pas le jazz jazzy sur lequel on tape du pied, mais qui est un jazz assez tellurique, fait par des gens qui avaient quand même un message très fort à faire passer. Je trouve qu'il le ramène assez bien vers lui, c'est-à-dire qu'il en fait pas quelque chose de prétentieux avec où il aurait pu faire évidemment le malin en mettant des saxophones free. En appelant Thomas de Porquerie, qui fait ça très bien, qui est son pote en plus, et qui aurait pu venir casser tout. Non, là, ça reste très modeste. Et en même temps, on perçoit en arrière-plan, presque de manière subliminale, cette influence-là très forte du disque blasé, notamment d'Archie Shepp, qu'il a apparemment beaucoup écouté, mais qu'il a laissé infuser en lui pour le ramener dans une écriture de chanson finalement assez classique. Et c'est en ça que je trouve ce disque est assez réussi, sachant que moi, Babix, je dois dire, les premiers temps, c'était pas un nom qui m'avait beaucoup marqué. C'est-à-dire que j'écoutais ses disques, je trouvais pas ça forcément exceptionnel. Même si je savais qu'il avait une cote énorme auprès des autres musiciens, comme réalisateur, comme auteur, etc. Enfin, compositeur. Mais je trouvais, j'étais toujours en dehors. Et là, je trouve que, bon, il a fait un album avec, précédemment, où il reprend Baudelaire, pas mal de poètes comme ça. Un peu à la Léo Ferré, comme on disait Hugo. Et là, avec ce disque-là, je trouve qu'il commence vraiment à arriver sur un territoire, finalement, où il est un peu tout seul. Et voilà, je trouve ça assez gonflé de sa part, parce qu'il aurait pu devenir une espèce de chanteur, enfin de compositeur pour à peu près tout le monde. Tout le monde serait à un moment, je sais que son nom était vraiment revenu tout le temps. Il a choisi une autre voie, ce qui l'empêchera pas par ailleurs de faire d'autres chansons. Mais pour ce qui est de son travail, je pense que là, le virage qu'il a pris, ça m'étonnerait qu'il revienne en arrière et qu'il refasse un disque avec 12 chansons.
Qu'est-ce qu'il y a alors dans le livret, Hugo ?
Non, j'ai une chose en l'écoutant.
Non, mais j'ai une question. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le livret ? Dans le livret, est-ce qu'il y a des textes ou est-ce qu'il
y a... Oui, il y a tous les textes. Il y a tous les textes. À chaque fois, il y a une introduction, une explication assez longue.
Ça, c'est très bien pour le coup.
Pour contextualiser la chanson.
Ça, c'est très
bien. Il y a les textes. Et les photos de tous les musiciens en noir et blanc. Non, mais en écoutant et en réalisant, je vois exactement le produit et en disant qu'il est que l'effet que produit ce disque est effectivement le un peu le statut qu'il va prendre avec ce disque, et c'est un compliment pour lui, ça lui fera pas vendre des millions de disques, c'est que je pense qu'il a été probablement, il s'est approché le plus de ce qui serait un équivalent français de ce qu'a fait Robert Wyatt en Angleterre. Mais il y a quelque
grand
chose
compliment.
De ça. Et oui, mais quand je dis ça, parce que Robert Wyatt est quelqu'un qu'on estime, qu'on respecte et tout, ses disques ne sont pas toujours faciles. Alors lui, il a cette voix qui monte, et lui, il est plutôt dans les plus
graves.
C'est
vrai que depuis Rock Bottom, les disques de Wyatt, on les estime plus qu'on les écoute.
On les écoute, oui. En fait, il est parti comme s'il était reparti dans ce qui s'est perdu quand la chanson française a un peu tâté de ce qu'on a appelé du progressif mais de goût dans les années 70, a un peu perdu ce fil. Et c'est comme s'il allait le rechercher là-bas en se replongeant un peu dans ce free jazz, ce jazz, et en couchant des mots dessus. Et oui, et c'est un peu comme c'est peut-être le rock bottom français, on sait-on jamais.
Non. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Non, mais c'est vrai que moi, j'aime de plus en plus l'album. Mais pas d'accord avec moi. Alors, c'était vraiment sur le texte introductif qui explique la naissance de l'album. Par contre, c'est très précieux d'avoir C'est pour ça que c'est bien d'avoir vu que c'était dans le livret. C'est tout, c'est très court texte, hein, à chaque fois, c'est parfois quelques lignes pour présenter un peu chaque chanson. Et ça, je trouve que c'est important, un vrai lien, et qui permet d'entendre autrement, notamment Omaya qui ouvre cette trilogie. Et la troisième partie, j'y suis particulièrement sensible. Nicolas Sarkozy, c'est encore une autre histoire. Mais ça vous émeut aussi, Christophe Comte, cette musique-là?
Énormément, énormément.
Parce que vous ne l'avez pas dit, alors.
Si. Non, le premier critère, ça a été ça. Quand j'ai écouté ce disque, c'est
que... Il me semblait bien.
Je l'avais chez moi et je ne l'avais pas écouté. Et puis, à un moment, j'ai décidé de l'écouter... sur les conseils de mon ami Stéphane Deschamps, qui a fait un papier dans les Inrocks et qui m'a dit « Écoute-le, ça devrait te plaire ». Et effectivement, j'ai été très très touché par cette histoire, parce que au-delà même du contexte, au-delà de l'histoire, parce que d'abord je l'ai écouté sans lire les petits textes, donc j'ai pas tout de suite percuté qu'il s'agissait de ça. Non, je trouve ça très émouvant, son chant... la proximité des instruments, ce truc, cette alchimie qu'il a trouvé avec le piano et tout ça, je trouve ça très beau.
Très bien. Hugo Cassavetti, rien à ajouter concernant Babix? Pas de concert en vue, là, pour...
Non, il va pas faire de concert. Il a ce pas, disque-là. Je crois qu'il a l'intention de faire un concert, mais probablement, voilà, dans un contexte un peu spécial. J'ai pas très bien compris, mais je sais qu'il a pas l'intention de tourner avec, en tout cas.
Bah, voilà. Un disque pour ce qu'il est. Un disque. Il s'appelle Ascension, au pluriel. C'est aussi un clin d'œil à Werner Herzog pour cette trilogie des Ascensions. Le disque de Babix, donc, chez Bison Bison.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans La Dispute, Fleet Foxes et Beth Ditto. Mais tout d'abord, nous suivons Xavier Martinet dans Le Petit Salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Un petit salon pop soir, et même Britpop.
Pop, Britpop, et retour peut-être de cette Britpop, puisque quand l'organisateur, vous allez voir, du concert en tout cas de U2 et Noël Gallagher, qui est l'ex-guitariste d'Oasis, invite un musicien de la garde républicaine à leur concert en juillet prochain au Stade de France, c'est bien sûr une anecdote nationale, mais c'est aussi un événement musical pour deux grands groupes, faut-il le dire encore, emblématiques de cette pop britannique des années 90 et qui n'avait pas joué depuis un certain temps. Et peut-être plus que cela, alors j'explique l'histoire. Vous savez que lors de la rencontre de football France-Angleterre le 14 juin au Stade de France, donc trois semaines après les attentats de Manchester, la France avait montré son soutien à travers son orchestre militaire et une chanson, Oasis, Don't Look Back in Anger, regarde le passé sans colère, pourrait-on traduire. Une ironie peut-être quand on connaît la brouille légendaire des deux frères. En tout cas, les images du militaire guitariste et chanteur pour l'occasion et le contre-champ sur les supporters à l'unisson ont fait le tour du monde, les interviews du militaire aussi, où il n'a pas manqué d'exprimer ses préférences, je le cite, « Quand j'avais 12-13 ans, mes groupes favoris étaient U2, The Cure, Simple Minds, et plus tard, j'ai adoré la vague Britpop », voilà le mot. Deux jours plus tard, l'organisateur du concert invitait le musicien à revenir en spectateur au Stade de France, même si le show était quasiment complet 5 minutes après l'ouverture des ventes en janvier. Alors évidemment, cette nouvelle plaisante n'est pas étrangère à l'actualité du groupe Oasis, donc ce groupe, on pourrait dire mythique, de la Britpop, fondé en 91 et qui est fini officiellement depuis 2009, et donc aux velléités de retour des deux frères. C'est à ça qu'on pourrait avoir affaire, puisque depuis quelques mois, l'hypothèse d'une réunification réapparaît dans la presse. Outre les apparitions de moins en moins timides quand même de Noël, c'est l'ex-chanteur et cadet, donc Liam Gallagher, lui-même séparé de son groupe suivant depuis 3 ans, qui revient sur le devant de la scène, d'abord en 2015 dans un pub irlandais, et puis en ce moment surtout avec un nouvel album présenté à Londres le 1er juin, explique les Inrocks. 3 jours plus tard, donc, il était à ce concert Liam One Love Manchester. Je savais que je devais le faire, je ne suis pas là que pour l'argent, s'était-il justifié au Manchester Evening News. Alors cet album ou promotion prépare-t-il une reformation du groupe? Je veux recommencer à faire mon travail, jouer du rock'n'roll aux gens qui aiment ça, j'adore ça et les gens le sentent, disait-il encore. Noël, faisons-le puisque les fans le veulent, déclarait-il via Q Magazine, magazine britannique en août 2016, et puis à Radio X le 1er juin. Je préférerais être dans Oasis que de jouer en solo, voilà c'est dit. Quoi qu'il en soit, ce concert devant un public d'initiés, explique encore Les Un Rock, n'a pas eu franchement un gros succès, moitié reprise d'Oasis, moitié donc les chansons écrites par Noël Gallagher, moitié nouveauté faite par Liam, qui laisse un arrière-goût douceâtre. À le voir au milieu de la scène, écrit le journaliste, dans sa posture caractéristique, Liam donc, le menton levé et les mains derrière le dos, on se croirait revenu 20 ans plus tôt, mais son charisme souffre tristement de l'absence de son frère, fantôme d'Oasis, conclut Les Un Rock. Alors il n'y a pas de grand retour de la Britpop, mais alors que cette année quand même a commencé à Liverpool avec l'ouverture d'un grand musée un peu fourre-tout de la Britpop, de la pop britannique, on peut remarquer une certaine tendance quand même à la réunion revival ou recyclage de groupes de cette époque. Vous aviez parlé du retour de Slowdive, donc qui ressort un album près de 40 ans après 30 ans après leur dissolution. Ce groupe paria de la pop anglaise, ça se discute selon le site Green Room. Là, ce sont plutôt quand même des groupes importants qui reviennent. U2 qui n'avait pas joué depuis 2 ans au Stade de France, même s'il n'est pas anglais. Blondie, si il est anglais, il est irlandais. Blondie, ce groupe américain, voilà, qui n'est pas britannique, qui revient le 28 juin à Paris et qui ressort un 11e album 40 ans après leur dissolution. Et puis les historiques, hein, quand même, le groupe Sued, loin de figurer au Panthéon, aujourd'hui éclipsé par Blur, Pulp ou Oasis, disait Télérama, mais qui a refait un album et une tournée en 2016. Et puis ce groupe que j'ai découvert, qui s'appelle Elastica, connu puisque c'est l'auteur de 2.1 dans la bande originale de Trainspotting, qui a remasterisé son premier album à Abbey Road avant de le republier pour le Discare Day de cette année. Alors voilà, c'est une histoire qui commence bien, qui peut paraître parfois un peu sordide aujourd'hui, mais y a-t-il et pourquoi cette volonté du retour pour la Britpop, la pop en général ou les grands groupes de cette époque des années 80-90?
Alors là, vous avez mis le pied, mon cher Xavier, dans des tas de pièges, car je voyais les sourcils de nos camarades se froncer. Parce que là,
surtout à l'évocation de Blondie.
Mais bon. Mais non, mais Britpop et mettre dans la Britpop des groupes qui n'ont rien à y faire, Hugo.
Oui. Ça, déjà, c'est vrai. U2, je vois pas ce qu'ils font là-dedans, quoi. U2 n'a jamais arrêté d'un groupe héroïque qui a débuté à la fin des 70. Donc, ils n'ont rien à voir avec la Britpop, c'est tout. Donc, c'est juste. Et Blondie encore moins, c'est vraiment les groupes punk du CBGB's, mais c'est pas grave. Après, sur les, je sais pas, je sais pas ce qu'on peut commenter exactement.
En fait, doivent-ils
reformer?
Je veux bien repréciser la question. À travers donc ce retour des groupes des années 80-90, on remarque évidemment ce vieux serpent de mer qui est la reformation ou le retour en tout cas aujourd'hui effectif du groupe Oasis, mais également j'évoquais ces groupes qu'on avait considérés effectivement.
Il faut quand même relativiser parce que tous ces groupes sont revenus depuis des années. Suède, je les ai vus il y a 4 ou 5 ans. Pulp.
Blondie était encore ça. Blondie revient tous les ans depuis 20 ans.
Blur a rejoué depuis très longtemps. Je pense que le problème du retour, ça dépend de ce dont on parle. On a commencé sur la fanfare. Là. Enfin, Oasis, la reformation d'Oasis, elle est inéluctable à un moment ou à un autre parce que leurs carrières solo respectives sont tellement consternantes, aussi bien artistiquement que commercialement.
Oui.
À un moment, on leur allonge tellement d'argent au bout qu'ils vont retrouver un moyen de se retrouver ensemble sur une scène. C'est inéluctable. Après, c'était très drôle d'ailleurs pendant le... Enfin, très drôle et un peu tragique, mais quand il y a eu le concert d'hommage aux victimes de Manchester, Liam était en fureur contre son frère qui était en Allemagne en lui disant « Mais prends un putain d'avion et viens avec nous !» Et c'était vraiment... Il l'a insulté. Alors on se dit que leur comeback risque d'être un peu houleux. Mais au-delà de ça, ce dont parlait Xavier, ce serait un retour de la Britpop, mais dans un sens où il y aurait un renouveau de ça. Et alors là, on le voit pas du tout. Là, pour le coup, on écoute beaucoup de disques quand même. Et depuis les Arctic Monkeys, on n'a pas vu un groupe pop anglais arriver, enfin je veux dire nouveau, comme étaient les Oasis, les Blur dans les années 90. On les voit pas. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, sans doute, mais je suis même pas sûr d'ailleurs, parce que je pense que la vocation du groupe à guitare dans la cave à Manchester, à Liverpool ou à Oxford est dépassée aujourd'hui. Les groupes n'ont pas envie de ça. Les musiciens musiciens anglais, les jeunes musiciens anglais, probablement, ont envie de devenir Kanye West. Ils n'ont pas envie de devenir Noël Gallagher. Il y a une vraie crise de la vocation pop en Angleterre qui est tragique, parce que ça a existé pendant plus de 40 ans et qu'on a vu régulièrement refleurir des grands groupes, les Jam, les Smiths. Enfin, c'était des gens qui avaient le royaume à leurs pieds, quoi. C'était pas des groupes underground, c'était des gens qui vendaient des millions de disques. Et là, depuis les Arctic Monkeys, il y en a pas un seul qui reprend ce flambeau-là. Et je pense que c'est vraiment mort. Là, j'en parlais il y a quelques temps avec quelqu'un. J'ai vraiment l'impression que le truc est fini. Il faut qu'il y ait une comment dire, ou alors peut-être que tout va renaître si il y a un groupe qui arrive et qui entraîne les autres derrière lui. On pensait que ça allait être ça avec l'Arctic Monkey, ça n'a pas été le cas. Et là, on ne parle que de groupes qui sont tous Elastica. ils ont fait un album, quelques tournées de reformation, un peu pathétique quand on lit les dernières pages de Mojo, quand on voit le nombre de groupes qui sont reformés dont on n'avait absolument plus entendu parler. Et ça va de The Farm à des choses qu'on avait complètement laissées de côté. Et ces groupes-là existent, effectivement. Est-ce que ça veut dire que c'est un retour? Je suis pas certain. C'est plutôt.
Non, mais c'est la spécificité Britpop que je ne suivais pas, parce qu'effectivement, le principe de la reformation pour des raisons plus ou moins avouables, ou simplement parfois ils ont envie de rattraper le passé et s'entendre. Mais ça n'a rien de propre à la Britpop, c'est tout ce que je voulais dire. Et encore, Elastica est un cas à part, parce qu'Elastica, Justine d'Elastica, c'est probablement un des rares cas de fille qui a arrêté sciemment, qui fait très bien carrière, comme juste puisqu'elle est directrice artistique ou artiste aux États-Unis. C'est pour ça, ils ne refont pas des disques. Il se trouve qu'il y a eu une demande, elle a accepté des trucs, du coup, ils remasterisent leur album, mais justement, ils sont pas dans ce, j'allais dire, presque ce business plus ou moins glorieux de la reformation au kilomètre. Pour finir sur Oasis, faut pas oublier que les Stones, on sait très bien que dans les années 80, si Jagger avait eu du succès avec sa carrière solo, qui a déclenché celle de Keith Richards par dépit, mais si ça avait marché, ça n'existerait plus. Donc voilà, c'est pour ça qu'Oasis peut-être, peut-être pas, mais en même temps, il y a un tel marché aujourd'hui, et là on revient peut-être du sujet du début, j'ai cru que c'était pour ça, de la nostalgie, il y a tellement maintenant de générations qui chacun a besoin de sa Madeleine, que ça marche, il y a tout un pan commercial qui de toute façon sera content, on le voit. Ce que je trouve le plus hallucinant, c'est sur ce qu'on appelait les boys band ou les girls band. Pendant longtemps, ces artistes-là, on savait qu'ils avaient une durée de vie de 3 ans, et puis au mieux c'était une vague Madeleine qu'on rangeait ou qu'on trouvait dans les vide-greniers. Même eux se reforment et on voit des femmes de 40 ans qui hurlent pour aller voir Boys to Men ou Worlds Apart. Donc on est dans les gens sont devenus eux-mêmes aussi fabriqués que les groupes qui regardaient, quoi, un peu de
moi, ce que j'ai trouvé assez touchant dans le phénomène récent là, c'est cette spontanéité de qu'on retrouve souvent dans ces situation dramatique de la foule qui chante et qui chante une chanson à l'unisson, qui trouve celle-là, qui la chante en premier. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un speaker qui dit on va chanter Oasis. Il y a quelque chose de très spontané que je trouve très beau, très émouvant et qu'on a retrouvé d'ailleurs au Stade de France quand il y a eu ce chanteur qui l'a fait. C'était assez beau, mais c'est parce que ça reste une chanson qui est un hymne et c'était celle-là, ça aurait pu être une autre. J'ai trouvé ça assez, enfin, je sais pas, Hugo a pas l'air d'accord.
Non, c'est sur le côté spontané. C'était totalement programmé. Ils ont reproduit exactement ce qui s'est passé 15 jours avant à Manchester.
Non, mais je suis d'accord. Ce que je disais, c'était spontané au départ à Manchester. Après qu'ils aient repris.
Ah là, ouais, c'est sûr.
C'est normal puisqu'ils ont repris l'hymne que les gens avaient choisi eux-mêmes. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort. Et ça, il y a qu'en Angleterre qu'on voit ça. Ça fait partie quand même de
la culture, de l'ADN.
Oui, mais là, c'est un autre sujet, mais on va être trop long, quoi. C'est soi-disant cette culture pop qui serait reprise par tous ces gens. Je pense que ce serait l'ode à la joie de Beethoven, ils le reprendraient tous aussi, donc ça n'a rien à voir.
Oui, mais
ce n'est
pas un hasard si on est à Manchester et que ce soit une chanson pop qui soit reprise et pas justement autre chose.
Oui, mais qui essaie de donner du sens à un endroit, et voilà, c'est formidable ce concert, mais qui paradoxalement, on disait que c'était Manchester, centre du monde d'une certaine musique, où à part Liam Gallagher et éventuellement Coldplay, c'est dire, ce n'était que toute la grosse artillerie ultra commerciale interchangeable de la variété américaine. C'est ça qui était un peu paradoxal de dire oui, on est au pays des Smiths, de New Order et tout. Et en fait, on avait juste du Katy Perry et du Justin Bieber.
Xavier Martinet, un mot encore.
Oui, je m'aperçois juste que l'introduction du sujet par Oasis parasite peut-être un peu la question du retour. Effectivement, il faut le dire, du retour peut-être nostalgique. nostalgique ou pas, ou parce qu'il fonctionne toujours effectivement par son pouvoir d'unisson ou de rassemblement de cette pop britannique, et peut-être plus encore. Et je terminerai juste en citant effectivement cette Justine Frischmann, donc qui faisait partie du groupe Elastica, qui était la chanteuse, qui vit aux États-Unis maintenant et qui déclarait bien effectivement au Guardian n'avoir plus aucune envie de faire de la musique.
Il faudrait que ça soit plutôt contagieux vers d'autres de ses camarades.
Elle a trouvé un job plus intéressant. C'est comme Fergal Charkey des Undertones, qui n'a jamais repris la musique parce qu'il est devenu directeur artistique chez Polydor à l'époque. Et aujourd'hui, il est patron du plus gros syndicat des artistes en Angleterre, et il ne remontera jamais sur une scène.
On n'aura plus jamais son vibrato.
Ah non.
Bon, ben, c'est là. On est content d'écouter les vieux disques des Undertones. Tiens, je vais faire ça ce soir en rentrant. Le deuxième disque à notre affiche ce soir, c'est le retour de Fleet Foxes, le groupe de Seattle dont les deux premiers albums, 2008-2011, avaient contribué à remettre au goût du jour un certain folk. On va l'entendre, c'est vrai, on pense à Crosby, Stills and Nash notamment. Le batteur est parti, Josh Tillman. Le groupe s'est mis en veilleuse le temps que son leader Robin Pecknold reprenne le chemin de l'université. Il était à Columbia, à New York. Il est sorti de sa retraite ou de ses études. Il a relancé les Fleet Foxes, qui nous arrivent donc avec cet album qui s'intitule Crack Up. On écoute un extrait. If you need to, keep time on me.
How could it all fall in one day? Were we too sure of the sun? If you need to, keep time on me. If you need to, keep time on me. Who knows what state is in store? If they all turn, will you run? If you need to, keep time. If you need to, keep time on me. When I need to, I'll keep time on you. Fire. But if you need to, keep time on me. If you need to, keep time on me. How could it all fall? Thank you.
Crack Up, c'est le titre de ce nouvel album de Fleet Foxes. Alors, est-ce qu'il faut faire une introduction en trois points, Christophe Comte,
Fleet Foxes, la resituer. Comme une chanson des Fleet Foxes qui est toujours en trois parties.
Ouais, ça. Bah, Fleet Foxes, donc un groupe américain de Seattle qui avait apparu en début de
2008, le premier disque.
Oui, voilà,
donc il y a une dizaine d'années.
Voilà, qui était au départ une espèce. De, alors, je vous aimais pas beaucoup quand je dis une espèce, donc ce qui était au départ un groupe folk comme on n'en avait plus vu depuis
ouais,
très
depuis
longtemps.
Oui, depuis un certain temps, c'est vrai.
Avec ce côté.
On tient les responsables.
oui. ce côté comme ça très processionnel, enfin avec ses voix. Moi, j'ai toujours bien aimé ce groupe. Je sais qu'il a ses détracteurs, mais en tout cas, ils ont ouvert une voie qu'on aime pas. Ils ont ouvert une brèche qui a été donc ce renouveau du folk aux États-Unis, qui avait toujours existé, mais qui n'avait pas repris du souffle de cette façon-là. Et après, derrière eux, se sont engagés beaucoup d'artistes plus ou moins intéressants, mais ils ont été quand même les premiers parce qu'ils ont vendu beaucoup de disques.
Ouais.
C'est une anomalie commerciale, ce groupe, puisque en Europe, ils ont vendu 700 000 albums de leur premier album. Ils ont sauvé le label Bella Union qui avait emprunté de l'argent pour enregistrer ce disque. Et ce disque, bizarrement, était sorti chez Bella Union en Europe et chez 4AD aux États-Unis. Et chez Sub Pop, pardon, aux États-Unis. Et ça a fait vraiment la fortune parce que aux États-Unis, ça a pas vendu
c'est
beaucoup.
Vrai.
En Europe, ça a vendu 700 000. Et du coup, bah, le brave Simon Raymond, ex Cocteau Twins, qui dirige Bella Union, a pu enregistrer tous les disques qu'on adore depuis des années.
Voilà. Merci.
Et ça, c'était
Foxes.
La parenthèse industrielle de l'affaire. Et puis, donc, c'est un groupe qui a fait deux albums assez rapidement, un deuxième en 2011, et qui ensuite a disparu des radars et qu'on n'a plus revu. Et à la limite, c'est là où on se dit, est-ce qu'ils nous manquaient vraiment? Est-ce qu'on les... Moi, j'y pensais pas très souvent. Et quand j'ai vu arriver un nouvel album des Fleet Foxes, alors que j'avais fait le papier sur le précédent, que j'aimais beaucoup, je me suis dit, ah bah oui, tiens.
C'est vrai, ce groupe existe.
Exactement. Et donc, voilà, donc j'ai écouté ce disque qui fondamentalement ne change pas énormément, hein, pour un groupe qui s'est arrêté pendant 6 ans. Bon, ils reprennent à peu près les choses là où ils les avaient laissées. Je trouve le disque très beau, dans la lignée donc de ce qu'ils avaient fait, avec cette particularité qu'entre-temps, Robin Picknold s'est coupé les cheveux, la barbe. Maintenant, le groupe ressemble à Wilco, d'une certaine manière. Enfin, ils n'ont plus du tout la même tête. C'est plus les rois mages comme à l'époque. Là, maintenant, ils sont beaucoup plus casual. Et la musique, elle n'est pas devenue plus simple d'abord. On pouvait penser qu'ils allaient faire des chansons de 3 minutes, non, elles durent toujours 6 ou 7 minutes avec 3 ou 4 parties. Des références donc à Fitzgerald plus directement pour Crack Up, la fêlure, etc. Mais d'autres références très complexes apparemment, enfin je n'ai pas trop fouillé. C'est un groupe qui peut très vite hérisser l'auditeur et les gens qui n'aiment pas ce genre de choses. Il faut avoir beaucoup, beaucoup d'empathie pour Crosby, Stills and Nash et toute la bande, les albums solo de Crosby, etc., pour aimer ce genre de folk.
Mais ça fait quand même du monde à
l'arrivée. Oui, hein. Ce genre de folk un peu, comme on dit, alors très souvent, ce mot un peu pastoral, voilà, avec beaucoup de voix inspirées, effectivement, de ces chorales de groupes. Bon, moi, que j'aime beaucoup du folk rock américain des années 70. Et avec l'avantage, là, d'avoir su se mettre en retrait pendant des années, ce qui fait qu'on les redécouvre un peu et que c'est assez... Il y a vraiment des morceaux très, très beaux, mais qu'il faut écouter plusieurs fois. C'est pas un disque... Au tout début, moi, j'étais un peu déçu. Et je dois dire qu'en le réécoutant, je me suis rendu compte des nuances qui émergeaient.
Aussi,
et aussi des différences avec les précédents Fleet Foxes.
Alors, Hugo Cassavetti, adepte ou pas?
Plus trop, mais voilà, je reconnais une chose, qu'à la réécoute, on rentre plus dedans. Alors moi, très, je l'ai déjà exprimé ici, très amateur de Crosby, Stills and Nash & Young à leur sommet. C'est vrai qu'avec le premier, c'est ce qu'on avait apprécié chez eux. Le premier Fleet Foxes, où on arrivait juste après toute cette vague, retour au rock à deux, guitare, batterie, White Stripes, Black Keys, tout à coup, totalement à l'autre extrême, ces espèces de baba, chevelu, barbu. bon, après, on leur en veut, parce que ça, tous les autres ont des barbes maintenant. C'est eux les responsables.
Ouais, mais lui, c'est rasé.
Je tiens à les dénoncer.
Non, ils sont responsables.
Et arrivé surtout avec quelque chose qu'on n'avait plus et qu'avait Crosby, Stills et Nash & Young, un génie de l'harmonie, d'harmonie, mais qui se contentait pas de juste faire des jolis chœurs, ce qui était magnifique chez les Beach Boys, mais dans ce contexte folk, progressif, et qu'ils avaient à peu près renouvelé, on va dire, avec peut-être une approche un peu plus moderne, ou même si elle paraissait très rétro, avec ce premier album. Et ils ont réussi un peu à convertir l'essai, comme on dit, à transformer l'essai, c'est ça, avec ce deuxième album qui était un peu plus ambitieux dans la construction. Et puis voilà, ça faisait 7 ans, et en fait ça me manquait pas trop. Et quand c'est arrivé, j'avais plus envie, quoi. Et je pense que derrière, et je suis rentré dedans, il y a quelque chose qui me bloque. Il y a des très beaux morceaux, mais c'est vrai que on a choisi un des plus courts.
Ouais.
On retrouve ces longues suites, et il y a quelque chose d'un peu forcé, je trouve, quoi. On sent que il n'y a pas cette fluidité. Et je pense quand même que le problème des Fleet Foxes, à l'écoute, c'est que tout s'est réduit à Robin Pecknold. C'était le cas au début, mais ils étaient pas mal dans ce groupe. On a parlé de Josh Tinman, qui, sous le nom de Father John Misty, a fait carrière en Neil Elton John. Il y a j'oublie son nom, mais le meilleur ami et complice de Pecknold faisait partie du groupe. Et beaucoup de ce disque parlent de ça, du fait qu'ils se sont séparés. Et que Pecknold n'a pas surpris, il avait fait cette tournée. Christophe a bien expliqué le succès un peu surprenant de ce groupe, qui a été un peu usé par les tournées, et que c'est un garçon un peu qui se pose beaucoup de questions. C'est pour ça qu'il est retourné à la fac en disant « Qu'est-ce que je fais dans ce monde-là » Il a beaucoup lu, cherché. Déjà, il était assez cérébral, mais là, c'est puissance 10. Et il nous sert son album un peu analytique de « toute façon, on a beau fuir, on retrouve toujours ce que l'on est. »
En étant beaucoup plus seul aux manettes, pour le coup.
Seul aux manettes. Et je pense qu'on... Là, c'est drôle, parce qu'on revient à un sujet. On parlait de Crosby, Stills & Nash & Young, groupe ô combien complexe dans les rapports entre ces quatre individus avec ce parcours qu'on connaît. Mais on sait que toute la richesse et l'exception, parce que je pense qu'il y a vraiment une exception, Crosby, Stills & Nash, c'est qu'il y avait ces quatre talents extrêmement différents et complémentaires, ce qui faisait la richesse de toutes leurs disques et leur discographie, qu'il n'y avait pas ce sentiment légèrement uniforme qui ronronne, aussi sophistiqué soit l'album. Et je pense que c'est la maladie, on parlait de la Britpop et tout ça, les groupes qui se séparent, qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Je pense que la mythologie du groupe, et ça revient un peu à ce que disait Christophe, quoi, est cassée, n'existe plus. Que les groupes, longtemps, alors ça fait un peu comme les gens qui disent oui, les couples, ils ne restent plus ensemble, ils se séparent tout de suite, mais il y a quelque chose d'assez similaire, que dès que quelque chose ne va pas, on se sépare, je vais faire mon projet à côté, plutôt que de nourrir des enregistrements de tensions qui sont souvent riches. Et je pense que toute la personnalité qui, moi, m'insupporte maintenant de Father John Misty, peut-être que ça nourrissait mieux, même en dessous, même par sa frustration, bizarrement contribuer à quelque chose de très très fort.
Non, mais c'est vrai, c'est toute l'histoire.
Et là, on sent que c'est, non pas, ça pourrait être bizarrement l'album solo de Robin Pecknold, mais finalement beaucoup plus chargé, je trouve, que les précédents. C'est qu'il s'est pas lâché, presque. Il aurait peut-être dû faire ce disque tout seul, beaucoup plus dépouillé, et on aurait peut-être eu beaucoup plus d'oreilles pour ses malheurs et ses histoires, et puis de temps en temps enrichi par des harmonies. Je trouve que voilà, on respire quand il y a des morceaux un peu plus courts, on retrouve juste la pureté des voix et des mélodies, mais ce systématisme de construire, et puis on rajoute une autre partie, on repart, et tout ça, quand on écoute, c'est quand même avec 12 000 références littéraires, bibliques, mythologiques, en gros, ça alourdit le propos. Crosby, Stills & Nash, c'était parfois militant, parfois niais, parfois tout. Mais il y a quelque chose qui transportait le tout. C'était la musique avant tout, une richesse et une liberté totale qui retombait sur ses pieds par la grâce des mélodies des quatre ensemble. Quoi.
Quelques mots peut-être, Christophe, quand pour réagir à ça.
Non, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a peut-être le goût et l'arôme de Crosby, Stills & Nash. Ce qu'il n'y a pas, peut-être, c'est vrai, chez Fleet Foxes, c'est cette différence et cette complémentarité de ces personnalités dont on a parlé.
Voire adversité.
Voire adversité, avec Neil Young en plus en Joker. Bon, c'est vrai, mais je reste quand même assez ébahi, moi, par la qualité d'interprète. Moi, je les trouve très beaux, les chœurs. Je trouve que les chansons gagnent à être infusées chez les gens qui aiment bien ça. Après, ceux qui aiment pas, franchement, n'essayez pas. C'est mort d'avance. Hein,
mais là encore, moi, je témoigne que plusieurs écoutes font entrer plus à fond dans ce bain amniotique.
C'est vrai que c'est pas le disque qu'on peut écouter comme ça en zappant en streaming.
Mais même c'est un peu le drame pour Babix, quoi. C'est des disques dans lesquels il faut entrer. Ouais. Alors, on entre ou pas, hein, mais il faut prendre un certain temps. Pour autant, il y a quand même aussi les concerts. Bon, le disque Crack Up sort donc chez Nonesuch Records.
Mais ils ont changé de label.
C'est ça, ils ont bien changé, en
effet. Fait la fortune.
Bon. ils seront en concert le 23 juin à Lille, ils seront le 4 juillet au Montreux Jazz Festival, le 7 novembre à Zurich, 17-18 novembre Bruxelles en Belgique, 20-21 novembre au Trianon à Paris.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Il y a encore une séparation au programme, parce que le troisième album de cette dispute musique, c'est le premier album solo de Beth Ditto, la chanteuse pendant 17 ans de Gossip. L'album s'intitule Fake Sugar. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce titre? On va écouter Fire et on va tâcher ensuite de répondre à la question.
Feeling in my bones, felt like a fever, came on like a storm. What I felt, it can't be helped no more. Get up, 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 up. If you want my love. Get up, 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 up. If you want my love.
Swift as a river, with a head as hard as stone. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home. Get up, 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 up. If you want my, want my, want my love. Get up, 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 up. If you want my, want my love. Fire. Fire. Bless my soul, that's the way.
Voilà pour cet extrait, c'est d'ailleurs le morceau Fire qui ouvre cet album, le premier solo de Beth Ditto. On n'est pas dans les mêmes tonalités, nous avons remarqué que Babix et Fleet Foxes.
Non.
Hugo Cassavetti.
Oui, c'est plus compliqué, vous avez dit ah, encore une histoire de séparation. Ben, c'est encore expliqué. Plus compliqué que ça, séparation de Gossip, mais mariage surtout, et qui ben, quand même irrigue beaucoup se disent que Beth Ditto s'est quand même mariée avec sa compagne de longue date.
Donc très longue date, ils sont ensemble.
Très longue date, oui, donc c'est quand même un journal qui a un disque qui est assez joyeux de ce point de vue-là.
Quoi, séparation de son camarade de Gossip, qui était avec qui elle avait un lien extrêmement fort, j'oublie son nom tout d'un coup.
Je n'ai pas jamais connu.
Bon.
Non mais Gossip, voilà, pour revenir. Beth Ditto, c'est... Alors on est très content de la voir revenir, parce que c'était une figure importante qui a marqué, voilà, cette espèce de voilà, comme on pourrait appeler boule d'énergie, pour être poli. Non, mais en plus, qui était à la fois importante, qui était une sorte de d'incarnation vivante d'une ode à une différence décomplexée, que ce soit voilà, de sa sexualité physique, c'est-à-dire elle était, voilà, comme elle disait elle-même, je suis grosse, fière de l'être, les concerts se finaient toujours à moitié nue en hurlant, et elle était dotée de cette voix incroyable. C'était une petite punkette de du sud qui était montée à Portland, où allaient tous les décalés, en gros la scène musicale d'Amérique se faisait là. Et avec ce groupe, au début, très punk, un peu très brut, qui s'appelait Gossip, qui était un groupe de punk, mais avec ce fond venant d'elle, de chanter avec du sud, de la soul du sud. Elle était dotée d'une voix vraiment de hurleuse, mais plus que de hurleuse, justement, assez subtile. Et Gossip a donc eu tout à coup ce succès énorme, autant par un morceau qui s'appelait Standing in... quelque chose of love, là, mais pas The Shadows. Non, In the Way of Control, c'est ça. Et surtout, en Angleterre d'abord et partout, d'être devenue cette fille qui avait son franc-parler, qui parlait d'absolument tout et qui a libéré énormément de gens. Et qui est devenue, puisque l'autre est arrivée un peu derrière, là, ce que j'appelle, je la définis vraiment, c'est la Adèle alternative, quoi. Adèle a été, pour la même raison, c'est parce qu'on l'a trouvée un peu, elle a son franc-parler, elle fume des clopes, elle parle mal, mais qu'est-ce qu'elle chante bien. Et est devenue la championne absolue d'une espèce d'easy listening international de qualité. Et Gossip est devenu un peu ça, la version dance, mais avec ce côté légèrement, non pas sulfureux, mais provoquant, qui avait du sens, parce que ça défendait toute une image avec une musique qui est devenue de plus en plus lisse, juste qui a plu à tout le monde avec cette dance pas désagréable, mais qui était vraiment comme du Adele, un peu plus musclé, on va dire, par les concerts. Et puis elle a disparu, elle est devenue, on se croyait qu'elle allait disparaître juste dans le monde un peu happé par le monde de la mode et du glamour et tout ça. Et elle revient avec ce disque, et donc son premier album solo, qui est plaisant, j'allais dire, mais on a envie de quelque chose d'un peu plus plaisant de Beth Ditto. Et c'est le décalage maintenant qu'elle plaît plus pour sa personnalité qu'elle garde. En concert, c'est toujours super. Mais sur disque, alors, curieusement, c'est un peu moins disco que les précédents. Elle est allée rechercher ses racines dites un peu du sud. Donc, il y a un peu de rock, un peu de rhythm and blues. Mais tout ça est assez polissé. Le morceau que l'on a entendu là est peut-être un des meilleurs parce que c'est celui qui a un peu une vraie pêche. Mais, c'est émouvant parce qu'elle chante bien. Il y a des moments où on dirait presque une Dolly Parton rugueuse. Ça devrait être un peu mieux que de la musique de fond et plaisante pour danser. Donc on est toujours un peu déçus. Content pour elle, ça marchera probablement, mais j'attends un peu plus de ça, de Beth Ditto. Qu'elle soit à la hauteur de son... C'est dur de dire ça, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, quoi. Mais on a envie qu'elle soit aussi... qu'elle se distingue autant... par sa musique que par ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme totalement libre et fière de l'être.
Bon, quand vous dites plaisant, moi je ne vous suivrai pas tout à fait sur ce terrain. Hugo Cassavetti, je trouve qu'il y a peu de choses plaisantes dans cet album. Alors, nourri aussi du honky-tonk de l'Arkansas, du fin fond de l'Arkansas, de Judsonia. Beth Ditto, j'ai trouvé ça, alors là pour le coup, pesant mais au sens plombant sur la plupart des titres. Christophe Comte.
À peu près la même chose que vous, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup d'affection pour
l'aime.
Ce personnage.
Elle a une voix
qui est super gentil, génial, généreux, sympathique, drôle, qui effectivement a fait avancer pas mal de lignes au moment où elle était quand même au devant de la scène avec Gossip. Moi Gossip, bon, c'est vrai que le début m'intriguait un peu, après j'ai commencé à trouver ça très très balourd, pas à cause d'elle hein, mais à cause du son. Et de leur de leur prestation de plus en plus attendue et de plus en plus
sans surprise
et puis là c'est un peu la même chose, c'est un peu la suite du dernier Gossip. C'est vrai que c'est pas désagréable, même si par moments c'est agaçant. C'est typiquement le genre de disque inutile, qui va peut-être trouver un public sur un malentendu parce qu'il y aura peut-être un single.
Dans un pays où Texas est numéro un, elle a toutes ses chances.
Exactement. Ça fait penser à ça. Ça fait penser effectivement à ce rock.
On pense rock FM, quoi.
Je sais même plus si les FM passent ça, mais c'est vrai, certaines FM qui passent ce genre de musique, qui sont contents d'avoir un peu des personnalités fortes, mais qui en même temps disent pas grand chose. Ouais, ça fait un peu comme les albums solo de Blondie aussi à un moment, enfin de Debbie Harry qui était quand même assez laborieux, ou de, on retrouve quand même ce truc un peu de du l'industrie du disque.
Pas beaucoup
comme
d'âme.
Ça, voilà, où on
ouais,
a des, tout ça. On se dit qu'est-ce qu'on fera de ce disque dans quelques années, on n'arrivera même pas à le revendre pour un centime sur un site, ça ne sert pas à grand chose, quoi. Même si on l'aime bien, peut-être qu'on ira la voir en concert parce qu'il se passe toujours quelque chose. Mais écoutez, c'est quand même...
Oui, parce qu'il est en plus vendu...
C'est un intérêt assez flagrant.
Vendu comme une sorte de retour aux sources, effectivement, ouais, musical, etc. Sauf que c'est quand même pas du tout ce qu'on entend. Ouais, parole à la défense pour terminer quand même, Hugo Cassavetti.
Non, parce que je suis d'accord avec vous.
En fait.
Mais on a tous de la sympathie pour elle. Non,
voilà,
mais c'est drôle,
ça,
parce que
ça n'empêche pas,
je l'ai mis l'autre jour, et c'est vrai que ça démarre. Fire, Fake Sugar, il y a 2-3 morceaux au début qui ont un petit effet. Sur la fin, il y a 2-3 trucs qui craignent un peu, je reconnais. Mais bon, après on peut s'arrêter avant la fin.
Bon, bah, c'est ça le conseil qu'on va donner, d'arrêter avant la fin.
Clairement, aux deux disques qu'on a écoutés avant, celui-là on peut l'écouter en zappant.
Ouais, c'est à peu près l'inverse à tout point de vue de Fleet Foxes et Babix, et je crains qu'en durée de vie aussi ce soit l'inverse, parce que vraiment, bon, écoutez par vous-même Fake Sugar de Beth Leto qui sort chez Columbia. Beaucoup de concerts à venir, 27 juin au Flow à Paris, elle sera au festival Rock Werchter en Belgique, le 29 juin, le 30 juin à Marmande, c'est le festival Garo Rock, le 1er juillet Saint-Gallen en Suisse, festival Open Air, le 3 juillet au Montreux Jazz Festival, déjà cité. Et puis à l'automne, 3 octobre Toulouse, 4 octobre Lyon, 7 octobre à Paris au Bataclan, 9 octobre à Nantes, 10 octobre à Strasbourg, 11 octobre à Lille. Voilà pour les prochaines dates en France ou près de la France pour Beth Leto. Et nous pouvons donc conclure cette émission avec le jeu de la dispute. Justine Dibling nous a rejoint comme tous les soirs pour d'une part nous rappeler, pour commencer, la question du jeu d'hier soir et nous donner enfin sa réponse avant de passer au jeu du soir. Tout le monde suit. La question d'hier, c'était quoi, Justine ?
Le film Manille de Lino Broca qui reprend le mythe d'Orphée et Eurydice est adapté d'un roman philippin, lequel ? Et la réponse était « In the Clouds of Brightness » d'Edgardo M. Rice.
Pas mal. Ce soir, on fait gagner des livres qui s'intitulent « Je danser ». C'est un livre de Carole Zellberg qui est publié chez Grasset. On fait gagner ce livre à l'occasion des rencontres littéraires clameurs qui ont lieu du 23 au 25 juin à Dijon. Ça commence donc demain, c'est pour cette fin de semaine. Quelle est la question, Justine ?
Qui a dit « Je considère comme gaspillé toute une journée où je n'ai pas dansé ».
Ah, c'est pas mal, mais je crois que j'ai la réponse. Votre réponse, si vous l'avez, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales. Vous envoyez tout cela à une seule adresse mail, auditeurfc@radiofrance.com. Les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter cette émission, vous abonner au podcast de l'émission ou nous écrire. On vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la littérature en compagnie de Daniel Martin et Étienne de Montetti, à notre affiche au 5 rue Lima de Mario Vargas Llosa, dans les eaux du Grand Nord de Ian McGuire et Prise de Bec de Curcio Malaparte. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.